Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 38e journée de championnat de Ligue 1 UBEATS. Les Verts se déplaçaient à Nantes pour un match crucial. Et ça se termine plutôt bien pour les Stéphanois, puisqu'on revient avec le match nul, le point du nul, qui nous permet de passer devant Metz pour obtenir cette place de barragiste. On reviendra longuement sur sur ce match nul à la Beaujoire. On passera des morceaux musicaux, une page Haute-Loire, des coups de cœur, des coups de tête, l'agenda, puisqu'il y a un agenda, puisqu'il y a deux matchs prévus cette semaine. Et oui, ce n'est pas la dernière émission coup de tête de la saison. Non, il y en aura bien une dernière lundi prochain. Face donc pour analyser cette double confrontation face au Bourguignon Auxerrois. Donc 38e journée de championnat, je disais, ce championnat c'est quand même un vrai roman, un roman à rebondissement, un roman à la nantaise avec un certain Jules Verne, et c'est Phileas Fogg de la radio. Il fait le tour du monde en 38 journées arborant nos couleurs vertes et il a dit bonjour à l'éléphant aussi à Nantes. Salut à toi Eric.
Toujours vivant, toujours debout comme l'a chanté Renaud. Salut à toutes et à tous.
C'est quoi cette histoire d'éléphant?
Tu connais pas l'éléphant de Nantes? Les machines de Lille,
ah,
on
oui.
t'expliquera.
Aussi. Ah si, maintenant tu m'en... Ok, maintenant que tu le dis, ok. T'as même le temps de faire du tourisme?
Bien sûr. J'arrive tôt.
Et dans une autre dimension, elle a installé un troquet sur les bords de l'Erdre. La Taulière, une blonde camac, un Lulu la Nantaise. Salut à toi, Olivier.
Sympa, merci Marco, je te raterai pas la prochaine fois.
Voilà, donc on va revenir rapidement sur le match du week-end.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end.
Alors, les Stéphanois se déplaçaient donc pour la dernière journée de championnat à la Beaujoire. Et malgré un bon début de partie stéphanois à l'image de la frappe de Denis Bonga déviée par Castelletto à la 16e minute de jeu, c'est Blas qui a obtenu au duel avec Michael Nadé et transformé son pénalty à la 23e minute de jeu. De quoi plomber les visiteurs, plongés dans la torpeur et pas loin d'en manger un deuxième à la 32e et 35e minute de jeu. Saint-Té repartant après la pause avec plus de hargne. Le début de deuxième a été très rythmé de chaque côté avec une bonne frappe en pivot de ce même Bouanga que Lafont est allé chercher à la 47e minute de jeu et une énorme double occasion pour les Canaris sur laquelle Bernardoni et Falaï Saïko se sont employés à la 49e minute de jeu. Amouma a une balle d'égalisation au bout du pied, mais a vu Lafont gober le cuir à la 63e minute. Et puis, un certain Kolo Muani a fait le show en butant sur le portier stéphanois à la 67e minute de jeu. Crispé mais bagarreuse, la SSE a fini par voir la lumière sur un centre de l'omniprésent Bouanga, repris par Romain Amouma, qui avait frôlé la lucarne quelques minutes plus tôt et a fini par offrir au sien le but de la libération à la 79e minute de jeu. Saint-Té a arraché le nul et la 18e place dans le dernier quart d'heure. Donc les Verts affronteront l'AJ Auxerre dans un barrage Ligue 1 Ligue 2 tendu les 26 et 29 mai prochains, c'est-à-dire cette semaine. J'ai fait concis comme tu les aimes, Olivier.
Ça va vite. Ça va vite, hein. C'est déjà là jeudi. Hein.
Ouais. Ouais. J'ai pas fait la composition, mais on peut revenir sur la composition de Duprat. Bernardoni dans les buts. Sako était aligné à côté de Mangala Nadé. Il a titularisé Tube, Camarin, Youssouf, Traoko sur le côté gauche, Aouchiche, Kazri, Bouanga. Voilà, c'était le 11 de départ de Duprat pour cette rencontre à Nantes.
Merci Marco, que d'émotion en tout cas ce samedi à la Beaujoire où les Verts jouaient leur survie en Ligue 1. Alors ils ont comme trop souvent concédé un but sur pénalty suite à une erreur défensive bête et ont ensuite été sauvés à plusieurs reprises par Bernardoni qui les a maintenus en vie, le but de la légalisation tant attendu se faisant attendre. On a commencé par croire que le miracle allait peut-être venir du Parc des Princes où le PSG a passé à Metz 5 des 7 buts nécessaires à notre maintien. Et puis comme tu l'as dit, comme un symbole, la délivrance est venue de Romain Amouma qui a surgi pour envoyer les Verts en barrage. Alors, scénario rêvé s'est produit. Je peux vous dire que dans le stade, c'était très fort émotionnellement. Alors, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, devant la télé? Je parle en termes d'émotion pure. Hein. On parlera plus en détail tout à l'heure du contenu. Olivier.
Ouais, je peux commencer parce que il a eu peur, Marco.
Il a éteint la télé, il m'a dit.
Il a fait de l'huile. Il est parti faire de l'huile dans sa chambre.
L'huile.
Il n'est pas jamaïcain pourtant, mais il danse le reggae.
Non, bah évidemment, hyper stressant ces dernières minutes parce que on le tenait, quoi, parce qu'il y avait le score de Paris qui était très très élevé, donc les Messins étaient écartés de cette course. Si on gardait ce résultat, et les Nantais, surtout le public qui était derrière son équipe, et ça pouvait faire peur parce qu'ils ont des bons joueurs qui peuvent rentrer également. Même si les titulaires, voir Blas sortir, voir Colomouani, ça rassure émotionnellement. Heureusement qu'il n'y a pas eu de ballon dans la surface un peu, parce que franchement le palpitant, c'était vraiment tendu. Hein. Ouais. Et toi Marco?
Bah, j'ai souffert, mais j'ai assisté quand même à une belle rencontre. Entre les deux formations, j'ai souffert une fois que les Nantais ont inscrit ce pénalty. J'avais peur qu'ils inscrivent un deuxième but. Et ils auraient pu à plusieurs reprises donc mener de deux buts. Et deux buts, pour moi, c'était synonyme de relégation. Et Bernardoni nous a sauvé la mise plusieurs fois dans cette rencontre et a permis, en fin de compte, le suspense jusqu'à l'égalisation. Après, j'ai pas pu regarder la fin du match. Voilà, je suis parti parce que c'est trop fragile, j'en sais rien, mais j'ai pas pu assister jusqu'à la 90e minute de jeu. Sachant que souvent Saint-Étienne encaisse des buts tout au long de la deuxième mi-temps. Ce ne fut pas le cas, heureusement, mais oui, j'ai vibré pendant 80 minutes, mais qu'est-ce que ce fut dur et compliqué. Mais en tout cas, je trouve que moi, les premières occasions de Denis Bouanga, il n'y a que Bouanga qui pouvait amener... le danger sur la cage de Lafond. Et une fois qu'il a été muselé, en plus il partait à chaque fois de loin, je me dis, mais comment on va pouvoir inscrire un but? Et une fois que la 23e minute de jeu, là, je dis, mais il faut absolument marquer. Il n'y a pas eu une grande révolte côté stéphanois et une difficulté énorme de se projeter vers le but adverse. Et ça, ça a été frustrant. Après les changements en deuxième mi-temps, avec une majorité d'attaquants, là, on s'est dit, bon, ça va arriver à un moment donné, quoi.
Changement de système à la mi-temps, et puis on passe à 4 derrière, et puis Romain Mouma qui fait une entrée gagnante. Donc sur le match en lui-même, les Verts ont rempli le contrat, et est-ce que la copie qu'ils ont rendue vous ont plus convaincu que les fois précédentes, en termes de jeu désormais, Olivier?
En termes de jeu... Bon, déjà, jouer à 5 derrière, je sais que c'est pas forcément l'idéal. Mais bon, lors de cette première mi-temps, ça allait. Il n'y a pas eu de trou béant. Bon, à part ce penalty qui. Voilà, qui. Après, il y a des clients en face. Pour répondre à ta question, j'ai pas trouvé l'équipe transfigurée lors de ce match. Après, à 4. C'est vrai que de toute façon, ils ont lâché toutes leurs forces, hein, de manière offensive. Donc c'est bien parce que quand même, on voit que Pascal Duprat, il a quand même réagi rapidement à l'ouverture du score nantaise. Et on a vu quand même sur le terrain plus que quatre défenseurs au lieu de 5. Puis après, des attaquants qui sont rentrés. On a vu Crivelli rentrer. Donc j'ai trouvé que la réaction était plutôt bonne. On n'a pas trop attendu parce que parfois c'était le cas les derniers matchs. Hein. On savait pas trop quoi faire. C'était Sablé, c'était Duprat. On hésitait. Voilà, là il y a aussi Nordin qui est rentré. Donc j'ai trouvé que la réaction, en tout cas du banc, des rentrants, était assez intéressante. Mais en termes de jeu, pas forcément d'étincelles, franchement.
Non, le jeu au cours des 45 premières minutes, a été très stérile et une fois de plus, on a vu les imperfections du milieu de terrain, notamment Youssouf et Aouchich qui avaient un mal fou à trouver soit Kazri, soit Bouanga. Les longues transversales d'Aouchich, je rigole quoi. Youssouf, il a eu un mal fou à contenir à la fois les Nantais au milieu de terrain et à la fois de se projeter vers l'avant. C'était vraiment compliqué au cours de cette première mi-temps de créer du jeu côté stéphanois. Et effectivement, Olivier l'a dit et tout à l'heure, le changement de stratégie avec l'arrivée de plusieurs attaquants a changé quand même la donne. Le fait d'avoir une supériorité numérique d'attaquants. Après, c'était sans milieu de terrain. Hein. C'était d'un côté comme de l'autre. Et c'est là que Bernardoni nous sauve la mise sur deux ou trois contre-attaques. Et puis, nous, sur une, on fait la différence et on égalise. Et tant mieux.
Et le retour de Sako quand même qui a fait beaucoup de bien. Donc il règle quand même pas mal de problèmes. Et puis même je trouve qu'il rend certains de ses partenaires meilleurs. Ce coup-ci, Mangala, par exemple, a fait un match très correct.
Exact. C'est impressionnant comme les autres jouent mieux, même dans le couloir. Tube aussi. Voilà, alors on est suspendu un peu aux résultats médicaux parce qu'il a fini le match vraiment difficilement. On rappelle qu'il joue, il revient de blessure et qu'il se sacrifie un peu pour le club. Il se sacrifie pour son entraîneur, il se sacrifie pour les gens qu'il aime bien dans ce club, je pense. Parce que sa blessure, c'était pas du cinéma. Et revenir aussi vite, même Duprat ne l'espérait pas, enfin au tout début en tout cas. Donc non, c'est franchement, s'il y a quelqu'un à remercier et qui s'est sacrifié, Bernardoni bien sûr, mais Sako, pour moi c'est un sacrifice énorme parce que, enfin, quand j'ai vu la fin du match, pour moi, on le perd, je le vois pas comment il peut jouer jeudi, parce que il joue 90 minutes à fond. Avec un genou, c'est le genou, hein, c'est pas une élongation, c'est pas le mollet comme un Mouma, c'est les ligaments du genou. Donc, et vu comment il a bougé le genou, je vois pas comment il peut jouer jeudi. C'est lui qui stabilise tout derrière. Hein. Tu as raison, hein, en vitesse, de la tête, c'est le seul qui va vite, il relance proprement.
Ah, il a fait une bêtise quand même.
Il rassure.
Oui, sur une occasion.
Il a fait une grosse bêtise. Hein,
sur la frappe excentrée sortie par Bernardi.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je ne me rappelais plus de ça, mais bon, qu'est-ce que tu. Enfin.
Bon, c'est un sacré coup
quand
dur,
tu joues blessé comme ça.
Vraiment pas de bol si on perdait à nouveau ce joueur. Hein.
Ouais. Enfin,
ouais. Ouais, surtout quand c'est privé de Saïdou Sow. Et pour le coup, c'est tout à fait légitime parce que il est hors de forme. Saïdou Sow, il est méconnaissable.
Il a joué en réserve.
On va passer à un titre musical avec un groupe nantais. Ça sera une reprise de volée. Le groupe Kokomo avec la reprise du groupe américain Indie. Et le titre, c'est Last Night a DJ Saved My Life.
Yeah.
les Black Keys nantais, le duo Kokomo avec revisite le groupe In Deep avec ce titre Last Night DJ Save My Life. Et oui, la nuit dernière, un certain Ao Amuma a sauvé le temps d'une semaine le club de Saint-Étienne.
Je suis Pascal Legrandfrère et je suis éducateur. La méthode, c'est comprendre l'adolescent, réagir et rester calme face aux situations difficiles. Il faut être respecté par l'adolescent, pouvoir lui donner le plus de cartes possible pour pouvoir devenir un adulte responsable. Mes valeurs, c'est le courage, le travail et le respect. Sans respect, on n'a rien. Je suis quelqu'un de revanchard, je n'ai jamais rien et je déteste la défaite. Pour moi, un grand frère, ça doit être un exemple, ça doit être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de droit et de dur.
Voilà, Pascal dans toute sa splendeur.
Ouais, alors avant de passer à la compo de Pascal Duprat, un mot sur le groupe où ne figurait donc Nicolas Ziejak, c'est une habitude et a priori on le reverra plus en vert. Nisso, on l'a évoqué tout à l'heure avant le titre musical, ni Boudbouz. Donc un mot sur l'absence de l'Algérien, sanctionné par son coach après avoir manifesté son mécontentement lorsque celui-ci a annoncé à ses joueurs que faute de vol de nuit, il devrait rester à Nantes jusqu'au dimanche matin. Il n'a donc pas été convoqué pour cette rencontre, un enjeu crucial. Et autre joueur qui n'est pas monté dans l'avion, Hassan Diouf, donc un choix beaucoup moins surprenant. Le problème, c'est que Gourna a ressenti une gêne la veille de match, qui a rendu sa participation très incertaine jusqu'au bout. D'ailleurs, on l'a vu s'échauffer à part samedi soir à la Beaujoire. Pour ne pas prendre de risque, le club a donc décidé de faire monter en voiture Hassan Diouf, donc le Sénégalais, qui finalement n'a pas été inscrit sur la feuille de match. Donc même s'il l'avait été, je ne vois pas trop comment il aurait pu jouer avec 7 heures de route dans les jambes. Votre avis sur ces deux cas particuliers, surtout sur Riyad Boudbouz?
Bah déjà, je savais pas que c'était pour cette raison-là. Alors, il est juste question de comportement du côté de l'Algérien, du franco-algérien, pardon. Donc, tu nous éclaires. C'est merci pour cette indiscrétion. Moi, je savais pas que c'était vraiment parce qu'il voulait pas rester là-bas. Après, il avait aussi manifesté son mécontentement lorsque il est sorti aussi. En disant que c'était toujours les mêmes qui sortaient, je sais pas quoi.
Voilà, Aouchiche aussi a manifesté son mécontentement quand il est sorti à Nantes.
Ah ouais, ça c'est sûr. On l'a bien compris, ouais. On l'a bien compris, mais ça, à la limite, être compétiteur, tout c'est bien. Y a plus. Franchement, qu'est-ce qu'on peut. C'est une réussite. Enfin, il a réussi. Comme il l'a dit, ils sont en Ligue 1 et demi. J'ai trouvé la formule intéressante de la part de Duprat. Et donc, il a réussi son coup là, parce que humainement, Boudbouz, c'est vrai qu'il a du poids, on le sent bien, il n'arrête pas de parler aux jeunes, et peut-être parfois à mauvais escient. Donc c'est plutôt une réussite. Humainement, on sait qu'il a des qualités au niveau de.
Pour
meneur d'homme, Duprat, je veux dire. On parle de Duprat. Donc là, je trouve que quand on voit le comportement d'Hassan Diouf, ben, ça montre qu'il a réussi à créer un groupe. Alors, à part quelques-uns, mais c'est dur dans ce monde de stars, un groupe solidaire.
Amouma, après son but, est parti voir directement Diouf. Hein. Justement.
Mais on l'a bien vu. Non, moi à Duprat, je reprocherais toujours la même chose, hein, c'est de commencer le match avec 5 défenseurs. Qui dit 5 défenseurs dit 3, et à chaque fois on prend des pions. Et puis bizarrement, quand on change, quand on revient à 4, ça nous réussit. Et la fois prochaine, on va commencer à 5 défenseurs. Ça n'a rien y comprendre.
Ouais, donc on passe à la compo. Donc effectivement, donc, comme d'hab, une défense à 3 avec le retour par contre de Falaisako, évidemment. Comme titulaire. En piston droit, donc Tube, qui avait été préféré à Masson. Au milieu, donc aux côtés de Camara, Youssouf plutôt que Gourna, on vient de dire pourquoi. Et sur le plan offensif, donc en pourvoyeur de ballon, bah, c'était Aouchiche qui a remplacé du coup Boudbouz. Donc voilà pour le 11 de départ. Et puis à la mi-temps, bah, quand son équipe était menée, le coach est passé à 4 derrière. Il a sorti Tube pour faire entrer Amouma et c'est de lui qui est venu la lumière. Et puis en toute fin de partie, pour préserver le nul qui sauvait les Verts, il a renforcé son assise défensive en remplaçant Bouanga par Moukoudi. Donc là, c'était plutôt bien vu. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé des différents choix. Même si donc les prestations évidemment de Tube et d'Aouchiche ont été nettement en dessous de ce qu'on pouvait attendre.
Ah bah après, c'est plus facile quand tu as plusieurs attaquants et quand tu centres qu'il y ait plusieurs coéquipiers à la réception du centre. Hein. C'est la différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est ça. Hein. Voilà, quand tu finis on va dire de la 50e jusqu'au but, jusqu'à la 80e, il y avait quand même beaucoup plus de verre dans le camp nantais et bah, ça réussit, ça paraît logique, hein, ça paraît logique. Mais encore faut-il tenir la route défensivement Et là, c'est Bernardoni qui a bien tenu le choc. Mais oui, oui, pour marquer des buts, c'est pas avec un seul attaquant ou que tu vas faire la différence. Donc, lorsque tu en mets 3, 4, voire 5, et ben, tu te crées des occasions. Et on a assisté en deuxième mi-temps à ce genre de situation. Et je ne comprends pas qu'ils ne le fassent pas à chaque fois, quoi.
Les centres de Traoko n'ont pas été très bons pour une fois.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Encore Traoko, défensivement, c'est là où le bas blesse, il était plutôt pas mal. Mais offensivement, super décevant. Ces centres, qui, généralement, c'est au cordeau. Non, là, ça n'a pas été le cas.
Du coup, ouais, tu veux que je te parle de... tout à l'heure, on a parlé de la défense. Peut-être dire un mot sur l'attaque. Moi, j'étais plutôt content de voir Aouchich dans l'axe et d'avoir en tout cas la niaque nécessaire. J'ai l'impression qu'il était dans son match quand même, même s'il n'a pas tout réussi.
Non,
physiquement, parfois, bah, les Nantais, il y a des clients, hein, on l'a dit. Il s'est fait surpasser au niveau physique, mais quand même, il a pas lâché. Parfois, même pour harceler, il défendait. Ça me plaît.
Ouais, mais offensivement, il a absolument rien apporté. Et techniquement, moi, je l'ai trouvé à la rue. J'ai vu des matchs où il était beaucoup plus omniprésent techniquement. Là, il a fait 3 transversales. Et les transversales, il faut qu'il revoie ça. Hein. C'est n'importe quoi. Ça va presque jusqu'à la ligne de corner. Il le fait une fois, il le fait deux fois. C'est quand même triste. Alors qu'en Régional 2, tu regardes les transversales, ça va dans les pieds de l'attaquant. Et là, non. Là, j'ai trouvé vraiment en dessous techniquement. Et tu perds des ballons et tu donnes le ballon à l'adversaire trop facilement. Et c'est dommage parce qu'il avait sa carte à jouer, notre cher Aouchich. Mais là, je regrette le fait que Boudbouz n'ait pas été présent.
A priori, il est réintégré pour Auxerre, hein, Boudbouz. Aouchich, c'est juste au moment où il se procure un corner que Duprat le sort, d'où sa colère.
À mon avis, il a dû s'excuser et c'est rentré dans l'ordre.
Oui, c'est surprenant qu'il n'y ait pas de vol de nuit pour rentrer de Nantes. C'est
la première fois que ça, en fait, c'était le
couloir aérien.
Le couloir aérien était interdit. Interdit, je ne sais pas, pas pourquoi, ouais, en effet. Mais c'est tendu, c'est tout ce qui est aéronautique du côté de Nantes, tu sais, avec ce qui s'est passé il y a quelques temps. Comment ça s'appelle l'aéroport qu'ils devaient créer, etc.
Après, quand on connaît Nantes, on sait qu'il y a un avion toutes les 10 minutes qui survole la ville. C'est unique en France.
D'ailleurs, les Verts étaient partis se mettre au vert, c'est qu'à de le dire, à Carquefou. Ils pensaient que les ultras allaient les attendre le vendredi soir. Du coup, ils ont trompé tout leur monde et puis ils sont partis le vendredi matin. C'était peut-être pas plus mal. Hein. Le choix-là est effectué par la SS.
Ils veulent faire pareil d'ailleurs pour Auxerre, je crois. Ils partirent un peu tôt, et il me semble. Si j'ai bien tout suivi.
On passe aux individualités.
Ouais.
Donc top flop, pas mal de top. Hein, des joueurs. Si on est encore là aujourd'hui sur l'émission.
Top, c'est moi. Bernardoni. Bernardoni, Bonga.
Sacco également, enfin un beau match.
Non, moi c'est
simplement
les deux.
Il est ressorti du lot avec Bernardoni, clairement.
Bernardoni, Bonga. Voilà, ça a frôlé presque la perfection pour les deux.
Bernardoni, je pense qu'on est au niveau, tu sais, vous savez, de Ruffier quand il sortait là. Il était capable d'en faire 3, 4 ou 5 par match, hein, Ruffier. On l'a déjà vu. Mais là, Bernardoni, c'est à ce niveau, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, comment il fait pour mettre le pied là ? Colomouani, il met tout ce qu'il a, il croise bien sa frappe. Et il arrive à venir le détourner avec le pied. Non, mais quand il est à ce niveau-là...
Mais tous ses arrêts, il en a fait 4-5, que ce soit arrêt du pied, de la main.
S'il avait à cœur de marquer, avec Colomani pour sa dernière.
Ouais.
Il y a une double occasion, là, un double arrêt de Bernardoni. Ah, c'est incroyable. Hein.
Non, mais c'est sûr que ça devait être un joli match, parce que les deux ont donné... Dans le stade, je veux dire.
Autant à Nice, il a été passé au travers, autant là...
Là, il s'est bien rattrapé.
Ça fait deux matchs où il sauve les Verts aussi. Il y a le match aussi contre... où il fait deux ou trois arrêts aussi.
Brest
Non, pas Brest, encore plus récent. Si, peut-être Brest, t'as raison. Non, mais cette fin de saison, vraiment, voilà, il faut...
si jamais on a la chance de rester en Ligue 1, il faut lui faire un contrat parce que.
Ah, j'ai cru que tu voulais faire une statue comme Robert Robin et puis Rocher.
Oui, alors vous mettez pas Romain Amouma, franchement.
Si, si, on va en parler, attends.
Non, mais. On a dit dans les top, pour dans les top, si, dans les top, Bouanga, Bernard Denis, je rajoute le renard argenté.
Bien sûr.
C'est Duprat qui l'appelle comme ça d'ailleurs. Et ça lui va bien, je trouve. Alors, c'est pas le but le plus dur qu'il a à marquer, mais il est bien placé. Même Crivelli, qui pourtant est un attaquant de surface, il y est pas. Ça fait longtemps qu'on a, c'est vrai que quand il est là, ça change tout, quoi, moi.
Et puis sur un très bon centre.
Ça serait le moment. D'ailleurs, on pourrait mettre la petite chanson de MC Pampille sur un air des années 80. Là, on va vous retrouver ça tout à l'heure.
Et puis sur un très bon centre de bon gars. Hein. Donc bon gars qui, je crois qu'il y a une grosse occasion, la première, hein, là, c'est vraiment première grosse situation des Verts, et puis après ben, il a une nouvelle occasion et c'est lui qui distribue cette galette pour Amouma qui inscrit le but libérateur pour les Verts. Au niveau des flops, Cazeri.
Ouais, Cazeri qui a été transparent au cours de cette rencontre.
Aouchiche et Tchoub pour moi.
Moi, le milieu de terrain, Youssouf, Aouchiche, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas était convaincant et Nadé aussi qui fait
Nadé qui commet ce penalty
qui commet
t'as quoi 8 penalties quand on monte la saison, c'est incroyable,
ouais,
on n'arrête aucun malheureusement.
Il commet une faute aussi en deuxième période un petit peu bête,
ouais.
Moi je l'aime bien Nadé, mais là c'est vraiment une faute bête, quoi. Il a pas à la faire parce que il y a pas de doute, hein. il y a vraiment penalty, jamais Il joue le ballon, quoi.
Puis bah,
il est en retard.
Tube que j'ai pas trouvé non plus.
Ouais, transparent, Tube.
Ouais. Dans ce rôle de piston, là. Toi, Olivier,
à la place de mon coup de cœur, je mettrais la petite pastille de MC Pompey tout à l'heure. Tu parles des flops.
Ouais.
J'ai trouvé que Youssouf, il était moins présent que d'habitude. Alors est-ce que ça vient du fait qu'il a été titularisé un peu par surprise, je sais pas. Mais franchement, sur une rencontre comme ça, en plus les Nantais, franchement, je le dis encore une fois, il y a de la qualité. Hein. Ils sont allés chercher les Niçois et c'est pas rien. Ils sont sortis l'année dernière, le même groupe, de la même situation que la nôtre. Bref, j'ai pas envie de mettre de flop sur cette rencontre parce que quand on a dit toute la saison qu'il y avait des joueurs pas très concernés, moi j'ai vu 11 Stéphanois tous concernés et ça fait plaisir.
Il y a quand même Cazeri qui est capitaine, qui fait des déclarations et qui après qui ne sont pas suivis des faits sur le terrain, je trouve.
Non, alors Cazeri, un gros trou d'air, mais comme il vieillit, hein, notre Wabi, et j'ai l'impression de le retrouver. Cette saison, elle a été éprouvante. Faut pas oublier qu'il a fait la CAN encore une fois. Faut pas oublier il a plus les jambes qu'il avait quand il était à Rennes ou autre, et s'il se repose, il a besoin de fraîcheur, et là il est temps que la saison s'arrête pour Cazeri, parce que le pauvre, on voit très bien qu'il fait plus aucune différence sur coup franc où là il peut nous aider quand même.
Heureusement qu'il y a bon gars devant, hein.
Tout à fait. C'est bon, on a fait le tour de Saint-Etienne. On va revenir à l'Alti-Ligérie. Il est où mon Alti-Ligérie? Il est là. Voilà. Allez, c'est parti. Page haute.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire.
Alors, en Alti-Ligérie, il y avait un match important, non loin d'ici, dans la Loire, Andrézieux-Boutéon. Le Puy-Foot qui était repassé devant Bergerac juste avant. Le Puy-Foot qui tient son ticket pour le final au Stade Massot, puisque André Dubouteillon, l'équipe de Roland Vira, s'est une nouvelle fois imposée sur la plus petite des marges à l'issue d'un match disputé entre les deux formations voisines. Malgré la chaleur pesante à l'Envol Stadium, les deux équipes débutent la rencontre sans ménager leurs efforts. Le Puy, poussé par la centaine de supporters venus en bus pour encourager leur équipe, va rapidement être récompensé de ses efforts en ouvrant la marque dès la cinquième minute de jeu sur un centre de Ndiaye. Fournelle déboule au milieu de la surface et surprend la défense en coupant le ballon en reprise de volée. Troisième but en cinq apparitions cette saison. Suite à l'ouverture du score, les deux équipes se retrouvent à jeu égal dans le score comme dans les occasions. Voilà, Maria sort une fois de plus le grand jeu pour sauver les siens d'une somptueuse claquette sous la barre juste avant la mi-temps. Et à la pause, le tableau d'affichage indique l'avantage d'un but pour le Puy. Ils vont garder justement cet écart-là. Les Ligériens se montrent de plus en plus pesants dans le Campono. Mais le Puy ne possède plus le ballon et opère davantage en contre-attaque. Et voilà, ça va rester stérile du côté ligérien. Et les Ponos tiennent donc leur victoire si importante pour l'avant-dernière journée de championnat. Maintenant, rendez-vous au plus grand nombre samedi prochain au Stade Massot pour tenter de décrocher le titre face à l'US Colomiers.
Qui est avant-dernier au classement. Donc
qui est avant-dernier, mais qui a aussi un match de sa survie. Il y en a combien qui descendent en National 2? Il y en a deux ou il y en a trois? Parce que là, ils sont avant-derniers, mais l'équipe qui est juste au-dessus a simplement 3 points de plus. Donc je pense qu'ils ne vont pas jouer pour rien.
Et l'équipe qui est juste au-dessus, c'est la réserve de Montpellier qui joue à Bergerac.
D'accord.
Donc il y a le mano à mano entre les deux clubs.
Voilà. Mais bon, il y aura du monde, je pense, au Stade Massot.
Et il y en a combien qui montent?
Il y en a qu'un seul.
Il y en a qu'un seul. Et donc oui. En fait, là, c'est...
Puisque tu as 4 poules.
Ils peuvent se faire doubler sur le fil comme...
Bah, ils ont un point d'avance.
Juste un seul point.
Ils ont simplement à gagner.
S'ils gagnent, c'est mathématiquement... D'accord.
Ils montent en national.
Et un match nul, le goal average, sinon tu sais pas...
Un match nul, et s'il y a victoire de Bergerac, c'est Bergerac qui...
D'accord.
Ils ont un but d'avance au goal average.
Voilà.
Le Puy.
Et il y a simplement un point de différence.
C'est une belle prestation de gagner à Andrézieux quand même. Parce que c'est une équipe qui avait fait un beau parcours en Coupe de France.
Une superbe fin de saison depuis. Hein.
Ouais. Ah ouais. Ah, depuis le mois de février, c'est impressionnant tout ce qu'ils ont engrangé comme points. On parlait des matchs nuls. Ils ont cumulé en janvier des matchs nuls. Ils n'avançaient pas, mais ils avaient des matchs en retard. Mais de février et mars, ils ont engrangé les 3 points. Et c'est tant mieux. Tant mieux pour la Haute-Loire d'avoir un club au niveau national. On croise les doigts pour qu'il l'emporte samedi face à l'US Colomiers. National 3, le Velay FC a fait un 0-0 face à Thonon et Vian. C'est la meilleure attaque de la poule et pourtant le Velay FC, depuis quelque temps aussi, ils engrangent des points. Bon, c'est des petits points, mais qui peuvent sauver la mise pour pas descendre. Donc pareil, on croise les doigts concernant la National 3. Là, il reste un petit peu plus de matchs. En Régional 1, Espaly, la grosse désillusion, a perdu dans le Bourbonnais à Domera, 1-0. Et maintenant, Domera a 4 points d'avance sur Espaly, alors qu'il reste une seule journée. Donc, c'en est terminé pour les espoirs d'Espaly de monter en National 3. Toujours donc en Régional 1, Blavozy l'a emporté 2-0 et toujours 3e, Blavozy. Et la réserve du Puy a fait match nul, 3-0 face à Thiers. Régional 2, Brioude l'a emporté 1-0 face au Chien Vert de QC dans le Bourbonnais. Vergonjon l'a emporté 8-1 à Saint-Germain-des-Fossés. Vergonjon termine 6e, bon il reste un match. L'USSL s'est incliné 3-1 face à Châtel-Guyon. Bon, ils n'avaient plus rien à jouer. Moi, j'ai assisté à la rencontre jusqu'à la 75e minute de jeu et c'en était plié. Mais bon, il y a eu des occasions de part et d'autre. C'était plutôt pas mal entre l'USSL et les Puy-d'Aumois de Châtel-Guyon. Retournac 8-1 face à 5%. C'est pas énorme, ça. Retourna qui était longtemps cet automne et cet hiver bon dernier, et ben ils grappillent des points. Ils ont mis 8 buts à 5%. La Padis l'a emporté face à Monistrol. Et oui, et enterre tous les espoirs de Monistrol. Il y aura un certain Monistrol, l'USSL, samedi. Voilà, un petit derby entre Monistrol et l'USSL. Et la dernière poule de Régional 2, c'est Voré, les Verts et Blancs, qui l'emportent face à l'AS Montchat de Lyon, 3 buts à 1. Voilà pour l'actualité footballistique en Haute-Loire. On va passer tout de suite... on passe à quoi ? Un autre titre musical, non ? Vous croyez pas ?
Et puis on se projette sur le match à Auxerre avec le joueur des deux clubs.
Ouais.
Tout de suite derrière, et l'agenda.
L'agenda avec le psychodrame avec cette double confrontation en barrage. Donc le titre Psychodrama des Little Rabbits, évidemment.
Yeah.
psychodrama du meilleur groupe français à mes yeux et à mes oreilles. Il n'y a pas de doute, ce titre date déjà d'une vingtaine d'années, donc du groupe nantais Les Little Rabbits. On passe à autre chose avec l'agenda.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
Et on commence avec un joueur qui a donc joué ou entraîné dans le club de Saint-Étienne, mais aussi dans le club d'Auxerre, puisque c'est l'opposition qui se présente. Eh bien, donc je vais pas garder le suspense plus longtemps. J'ai choisi Lilian Compan, qui a au début de sa carrière joué à Auxerre et qui a évidemment fait les beaux jours de la Saint-Étienne entre 2002 et 2005. Alors pourquoi Lilian Compan ? Eh bien, j'aime bien ce joueur et puis à Saint-Étienne aussi, j'ai l'impression qu'on aime bien ce genre de joueur. C'est un peu l'anti-star Lilian Compan, c'est-à-dire que bah il est très humble, il est très altruiste, il est très élégant aussi, mais engagé avec une belle grinta aussi. Et un buteur altruiste, c'est quand même assez rare pour être souligné, parce que il donnait quand même pas mal de passes décisives. Et on Alors pourquoi Lilian Compan aussi ? C'est parce que bah, tout le monde a gardé en mémoire cette fameuse blessure contre lors du derby où il se casse le tibia en marquant un but contre Lyon en plus donc. Et ça me fait penser à l'anecdote, vous savez, de Marcelo Bielsa qui justement demande lui aussi à ses joueurs qu'est-ce que tu serais prêt à laisser sur le terrain si pour marquer, pour gagner. Donc il demande ça à Pochettino. Pochettino lui dit bah moi je serais prêt à tacler avec la tête, etc. Et lui, bien il est un peu comme Compan. Bielsa, il dit ben moi je serais prêt à laisser un doigt si on me dit que demain je gagne, je laisse un doigt, pas de problème. Et ça il le dit devant le groupe entier. Et le soir même, son frère vient voir dans sa chambre en se disant mais est-ce qu'il s'est vraiment fait couper un doigt pour exorciser et pour gagner demain lors du derby. Donc s'il a fait peur à tout le monde, Bielsa. Eh bien Lilian Compan, c'est un peu la même chose. Il s'est sacrifié. Alors pourquoi Auxerre, me direz-vous ? Eh bien parce que c'est Giroud qui l'a repéré très très jeune et qui l'a fait venir. Malheureusement, il était un peu barré parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de bons joueurs à Auxerre et il a été prêté. Donc il n'est pas resté beaucoup, mais quand même, merci Giroud de l'avoir repéré et de l'avoir fait venir dans le monde professionnel. Et puis pourquoi Saint-Étienne ? Eh bien, je l'ai dit, il est resté de 2002 à 2005. Il a quand même marqué 25 buts pour l'AS Saint-Étienne et notamment, il est champion de Ligue 2 avec ce club en 2004 et puis il finira donc sixième avec Saint-Étienne en Ligue 1 l'année où ils vont remonter. Donc voilà, on parle de Ligue 2. Ben s'il y a quelqu'un qui représente Saint-Étienne, Auxerre et la Ligue 2, ben c'est bien Lilian Compan.
Très bon choix, Olivier.
Je savais que ça te ferait plaisir.
Ah oui, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup.
Pareil.
Donc le barrage aller-retour cette semaine entre l'ASS, donc 18e de Ligue 1, et puis la JOCR, 3e de Ligue 2, qui est invaincu en championnat depuis plus de 2 mois et qui a éliminé en pré-barrage Sochaux au tir au but. Alors, cette équipe auxerroise qui espère remonter depuis 10 ans, ça commence à dater, un collectif bien huilé et puis une bonne attaque également emmenée par Gaëtan Charbonnier, auteur à lui seul de 17 buts. Il va falloir s'en méfier de ce joueur. Donc le match aller se déroulera jeudi à 19h à la Baie des Champs, le retour dimanche à la même heure dans le Chaudron. Alors quelques stats de cette rencontre entre deux clubs français historiques, deux inquiétantes et une plus rassurante. Donc l'ASS a disputé 3 barrages dans son histoire, contre Mulhouse et Strasbourg en 1934, contre le Racing Club de Paris en 84 et contre Rennes en 85. Bilan sur cette rencontre, 0 victoire, 3 nuls et 4 défaites. Les Verts n'ont pas non plus gagné un seul de leurs 9 derniers matchs contre Auxerre. Il faut remonter à 2008 pour retrouver trace d'une victoire. La dernière fois qu'on a joué à Auxerre, on a pris 3-0 durant la prolongation en 6e de finale de Coupe de France, alors que les Auxerrois étaient évidemment en Ligue 2. Et par contre, donc depuis que les barrages ont été réinstaurés, il y a une seule équipe de Ligue 2 sur 4 qui s'est imposée. C'était 3 en 2017 contre Lorient. Par la suite, Toulouse, Dijon et Nantes ont conservé leur place en Ligue 1. Alors on espère évidemment que l'ASS poursuivra cette série. À noter que la règle des buts à l'extérieur donc sera en vigueur pour cette double confrontation. À noter également que pour la manche aller, l'ASS sera privée de Mangala suspendu, qui en toute logique devrait être remplacé poste pour poste par Moukoudi. Et l'arbitre sera M. Benoît Millot.
Ouais, à se méfier du milieu de terrain auxerrois. Je les ai vus à l'œuvre lors d'un match face au Havre où ils étaient menés.
Je supervise souvent Auxerre, Marco. Olivier, t'as remarqué?
Ouais, c'est vrai. C'est familial, je crois.
Il y a un certain Perrin. Un Perrin à Auxerre. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose.
Il ne va pas marquer contre nous, Perrin en barrage.
Chertrin Campé.
C'est pas possible, ça.
Mais il y a un certain Perrin au milieu de terrain, un Gauthier Hein, qui est pas mal. Et surtout, moi, je crains, c'est Gaëtan Charbonnier, qui marque très souvent contre Saint-Etienne depuis de nombreuses années. Hein. La dernière fois, il avait endossé le maillot de Brest. Il nous avait fait la misère à Geoffroy Guichard. Donc, se méfier du milieu de terrain et de l'attaque. Et pour contrer ça, et bah, il faut marquer des buts. En plus, les buts comptent double à l'extérieur. Il va falloir, dès jeudi, 19h, enfoncer le clou et dire qui on est.
Prendre une option et faire respecter la hiérarchie.
Ouais, je rajoute que quelque chose que vous n'avez pas dit et qui n'est pas forcément rassurant, c'est la qualité de l'entraîneur au Auxerrois, connaît bien...
Ça fait 12 ans, depuis le début de l'émission, qu'on parle de Furlan. Et on n'en a fait que des éloges en 12 ans de ce cher Furlan. Voilà. On en a parlé même avant l'arrivée de Galtier. Donc oui, c'est un monsieur... qui mériterait la Ligue 1 chaque année et qui propose toujours du jeu.
Donc il va y avoir du jeu et du coup du physique. Hein, qui dit jeu dit intensité physique. Donc les Stéphanois devront répondre sur ce plan-là aussi. Parce que la Ligue 2, c'est un championnat très très exigeant au niveau physique.
Ouais, ben on aura la réponse suite au match de dimanche, toujours la même heure, 19h. Les deux matchs sont soit sur Prime Video, soit sur Bein. Hein, on a vu ça juste avant de commencer l'émission.
Et à guichet fermé les deux.
Et à guichet fermé, il y a de grandes chances puisque le Cop Sud pour dimanche est fermé. Voilà, suite aux décisions débiles. On va passer tout de suite au coup de cœur, si ça vous convient.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Alors, coup de cœur pour le scénario espéré qui s'est écrit sous mes yeux à la Beaujoire, pour les arrêts déterminants de Bernardoni, pour le but libérateur comme un symbole de Romain Amouma, qui est le premier joueur stéphanois depuis Michel Platini à atteindre la barre des 50 buts en Ligue 1. Et puis pour Jesse Moulin, qui dès sa sortie de terrain samedi s'est empressé de demander le résultat de la SS à Nantes. Il a gardé le cœur vert Jesse, ce que n'a pas manqué de faire remarquer le journaliste qui l'interviewait.
Ok, et pendant que Marco cale le petit son que je vous avais promis, au départ je voulais dire Bernardoni. Je te rejoins et surtout son arrêt face à Kolo Muani. Il y a eu quelques tournants comme ça et ça s'en est un parce qu'à ce moment-là du match, c'en était fini. Je vous propose, mais le vrai coup de cœur, c'est celui qui concerne Romain Amouma. Il est signé MC Pampi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du MC Pampi. Il avait fait très fort en hommage au renard argenté Romain Amouma.
Te faire écouter, tu me dis ce que t'en penses. C'est un peu plus speed. Pour le club, tu sais, les boîtes de nuit, tout ça. Ça fait 4 jours que tu te suis. Oh Moumo, il va marquer ce soir. Pour tous les garagnons qui ne pensent qu'à boire. Oh Moumo, il va marquer ce soir. Pour tous les Stéphanois qui cherchent la victoire. Oh Moumo. Bien. Ça n'a pas été fait, c'est sûr.
Voilà. Merci, Pompi.
Coup de cœur pour moi, pour le Milan AC qui a remporté ce week-end le Scudetto, donc bravo aux Rossoneri. J'ai bien aimé le but de Mounier, l'attaquant de Brest, le Béninois. Je ne sais pas si vous avez vu cette rencontre, notamment ce but, c'est deux reprises de volée qui se succèdent, un centre en reprise de volée et la réception du Béninois en reprise de volée, c'est magnifique. Sinon, j'ai aimé le huis clos qui est levé pour le barrage de dimanche. Voilà, enfin une décision, on va dire, réjouissante. Mmh. Et puis évidemment, un gros, gros, gros coup de cœur pour Bernardoni qui nous sauve la mise sur cette rencontre et qui nous donne un sursis. J'espère qu'on ne va pas passer à côté. Voilà pour mes coups de cœur et nos coups de cœur. On va passer tout de suite à ce qui nous intéresse.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Alors même si l'espoir de maintien reste d'actualité, coup de tête pour le bilan stéphanois cette saison qui est calamiteux. C'est la première fois qu'un club de Ligue 1 pourrait se sauver avec 32 points. Il faut savoir que Nantes l'an passé barragiste en comptait 40. C'est notre pire nombre de points, notre pire différence de but, la pire défense qu'on ait eue, bref, la pire saison qu'on ait vécue. Coup de tête pour les 3 matchs de suspension du COP Sud. Une nouvelle fois, bah, tout un COP est sanctionné à cause de certains. Après tout ce qu'on a enduré en tribune, même si ce dimanche le tarif est très attractif, je pense que le club aurait quand même pu inviter tous les abonnés. Coup de tête pour la blessure en fin de partie de Falaï Sakho, donc en espérant que ce ne soit pas trop grave. Tout le peuple vert espère fortement qu'il sera présent pour la double confrontation face à Auxerre. Puis pour terminer, une pensée émue pour les Girondins de Bordeaux qui ont été officiellement relégués en Ligue 2. J'oublie pas que le 30 mai 2009, les Bordelais se déplaçaient à Caen pendant que les Stéphanois recevaient Valenciennes. Nous, on jouait notre survie. Bordeaux allait à Caen pour le titre et Caen était notre concurrent direct. Les supporters bordelais en parquage visiteur avaient déployé une banderole qui disait « Pour le titre, pour sauver les Verts ». Donc voilà, depuis, on sait qu'il y a une grande amitié qui dit c'est les Bordelais et les Stéphanois. Donc aujourd'hui, ils quittent la Ligue 1. Donc j'espère qu'ils vont vite remonter. En tout cas, que les Verts ne vont pas les prendre le même ascenseur. Donc que les Verts se sauvent et que les Girondins nous rejoignent vite en Ligue 1.
Je te laisse déployer tes coups de tête, Marco.
Non, mais je rejoins Eric déjà. Sur la totalité de ses coups de tête. Et j'ai rajouté le pénalty de Delors. Nice a bien été avantagé ce week-end. Le pénalty est simplement scandaleux. Ils étaient menés 2-0. Résultat, ils reviennent avec une victoire 3-2 du même Delors. En revisionnant les images, je trouve ça assez scandaleux parce que il n'y a jamais pénalty sur Delors et Delors qui chouine tout le temps. Enfin, voilà, ça c'est mon coup de tête essentiel pour clôturer cette émission. Tu n'en as pas, Olivier ?
Non, cette semaine, que du bon pour moi.
Ah oui, mais l'émission s'appelle Coup de tête, je te rappelle.
Écoute, on verra. On espère que la semaine prochaine, j'en aurai pas non plus. Ça voudra dire qu'on est en Ligue 1.
Bah en tout cas, on le souhaite. Allez, plus que 2 matchs, donc jeudi et dimanche, double confrontation déjà à Auxerre jeudi, réception d'Auxerre dimanche 19h, et allez les Verts, et ça va bien se passer.
Allez, les Verts.
C'est la semaine capitale, plus que jamais, allez les Verts.
Et on se retrouve lundi prochain justement pour analyser cette double confrontation. D'ici là, bise à l'œil, bonne semaine, ciao.